Alors, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir présenter le docteur Raphaël Petit. Il est diplômé de médecine en 1978. Il exerce comme médecin militaire en Yougoslavie, au Liban et pendant la guerre du Golfe. Après 28 ans de service qu'il a passé en médecin de médecine générale des armées, il prend sa retraite. Mais une retraite active, il devient le chef de service en réanimation de Nancy, de l'hôpital de Nancy. Il est connu pour son travail humanitaire en Syrie.
Il y a un petit souci des gardiens.
Donc, il est. C'est le retour de son micro qui ne marche pas, excusez-moi. Il est donc connu pour son travail humanitaire en Syrie, où il prend plus d'une vingtaine de fois, où il part plus d'une vingtaine de fois notamment pour former l'ONG. Il est conseiller municipal de Nice en charge de l'humanité et de l'urgence sociale et sanitaire. En avril 2022, Raphaël Buti ouvre au centre de formation à Lviv pour les soignants ukrainiens. Il revient tout juste de Gaza pour délivrer son témoignage. On te remercie énormément d'être parmi nous et d'avoir répondu à l'appel. Donc, ma première question est déjà comment vas-tu ? Parce que ton retour était très difficile et je te laisse nous le raconter.
Oui, je disais merci beaucoup, merci à tous. Qui êtes là, présents cet après-midi, parce que vous êtes certainement très sensibilisés par la problématique, par ce qui se passe sur le plan humanitaire dans la bande de Gaza. Et je dois dire que c'est peut-être une des missions les plus difficiles que j'ai pu avoir à exercer durant ces 30 années d'action, à la fois, comme tu l'as dit toi-même, à être dans des zones de crise, des zones de guerre, et ensuite dans l'action humanitaire, aussi bien en Syrie pendant ces 10 dernières années qu'en Ukraine encore il y a quelques mois. Et je repartirai à la fin de la semaine d'ailleurs, en Ukraine pour une semaine. Alors je veux dire que oui, la situation, pour moi en tous les cas, c'est une période relativement difficile, je dois dire, parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir absorber ce à quoi j'ai assisté à Gaza pendant, à Rafah plus exactement, pendant 16 jours. Est-ce que tu avais des questions ?
Si possible de nous faire déjà un état des lieux de la situation que tu as vue, pour nous rendre compte, plus concrètement, on a montré le petit film, certains l'ont vu. Pendant ce temps, on se rend compte bien que les conditions sanitaires déplorables. Est-ce que tu veux des précisions à nous apporter sur la situation sanitaire, surtout l'hôpital européen où tu étais ?
Alors, nous étions dans l'hôpital européen de Khan Younes. Et puis, j'ai eu à aller sur Rafah pendant au moins 6 fois, où j'ai pu rencontrer les responsables sanitaires de la ville de Rafah, y compris le maire de Rafah. L'hôpital européen, alors c'est une situation qui est une situation de chaos total, de cet hôpital qui est un très très bel hôpital, qui est totalement fonctionnel, mais qui aujourd'hui, du fait de la situation qui est créée, n'est pas du tout opérationnel. L'hôpital est envahi par des réfugiés qui se sont déplacés. Il y en a 25 000 autour de l'hôpital qui se sont créés des abris de fortune. Et il y en a 3 000 qui vivent dans les couloirs de l'hôpital, avec femmes, enfants, et qui sont couchés le long des couloirs, séparés les uns des autres par des draps qui pendent depuis le faux plafond pour donner un peu d'intimité à leur présence à l'intérieur. Mais au même temps, cette population qui est autour de l'hôpital et à l'intérieur de l'hôpital a des besoins de santé primaire. Il y a des problématiques qui sont des problèmes saisonniers, tout simplement. Il y a des problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants. Il y a aussi des problèmes digestifs du fait de la contamination de l'eau et avec les hépatites. Et il y a toutes les pathologies chroniques aussi. Cette population qui a des besoins de santé primaire, eh bien, elle afflue au niveau du service des urgences. Et il y a une masse, jour et nuit, de personnes qui cherchent à avoir la possibilité de consulter un médecin pour les symptômes qu'ils présentent. Là-dessus, dans cette situation de chaos qui est créée par cette surdemande de sanitaire, il y a bien entendu l'arrivée des victimes, des bombardements. snipers ou par le drone tueur. Et arrivent à ce moment-là les ambulances qui traversent toute la foule, qui bien sûr est curieuse de savoir ce que les ambulances vont amener et qui vient s'agrouper autour de cette ambulance et on descend les morts et les victimes. Comme l'hôpital est déjà surchargé par la présence de ces consultants qui occupent tous les box, eh bien, le plus souvent, les malades les plus graves sont déposés par terre, y compris les morts aussi, et c'est par terre qu'il faut les mettre en condition, c'est par terre qu'il faut tenter éventuellement de les sauver. Et c'est une situation qui est impossible à maîtriser. J'ai bien tenté, bien évidemment, puisque c'est ma compétence, que la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe, j'ai bien essayé de dire « nous ne devons pas laisser rentrer les gens pour venir à la consultation au sein même à l'intérieur de l'hôpital. Il vaut mieux que nous mettions en place une tente à l'extérieur de l'hôpital. Il y a de l'espace où nous pourrions faire le triage à l'extérieur de l'hôpital pour ne laisser rentrer à l'intérieur de l'hôpital que les urgences. » Ça a été impossible. L'hôpital est dans une telle situation qu'il est impossible de pouvoir organiser quelque chose tellement il y a cette pression de cette foule qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Il en va de même au niveau du bloc opératoire. Il ne manque pas de médecins, il ne manque pas d'infirmiers, il ne manque pas d'internes, il ne manque pas d'étudiants. Il y a tous les médecins, les chirurgiens qui étaient dans les hôpitaux du Nord qui ont été forcés de quitter ces hôpitaux pour aller vers Rafah. Et c'est tout naturellement qu'ils sont venus aussi à l'hôpital européen avec femmes et enfants pour essayer, bien évidemment, aussi de trouver à manger. L'hôpital distribue un repas par jour à tout le monde. C'est essentiellement du riz tous les jours et c'est ce que nous avons eu pendant les 15 jours où nous sommes restés là. Et en même temps, il y a constamment des besoins en termes de chirurgie d'urgence. De ce fait, les malades ne sont pas revus et les pansements ne sont pas refaits parce qu'il n'y a pas le temps de les refaire. Et quand les malades reviennent après un mois ou deux mois, c'est souvent très affecté avec des germes qui sont multirésistants. Et les jambes qui avaient été, dont on avait tenté de traiter par des fixateurs externes, plus souvent ils arrivent avec des infections osseuses et compte tenu des germes multirésistants, les voilà qui sont de nouveau amputés. Le fait que l'hôpital soit submergé, c'est un hôpital de 400 lits. Aujourd'hui, il a hospitalisé 900 lits. Il a 900 lits qui ont été déployés là maintenant. Bien évidemment, il est impossible en réanimation, c'est une réanimation de lits. Les blessés les plus graves, bien évidemment, eh bien, on est amené à les laisser mourir parce que si on doit les mettre en réanimation, ils vont devoir rester en réanimation peut-être 2, 3, 4 semaines sans être persuadés maintenant que l'on puisse les sauver. Et de ce fait, on se retrouve devant un triage inversé. C'est-à-dire qu'on ne prend que les malades dont on est sûr de pouvoir les guérir et on laisse mourir les blessés les plus graves dont on pense que malheureusement, ils vont prendre beaucoup de moyens. Ils vont prendre de la place à l'intérieur de l'hôpital et ou avec un pronostic qui est relativement sombre. Et donc, on laisse mourir les blessés les plus graves. Ces blessés, normalement, devraient pouvoir être évacués vers l'extérieur de Rafah pour aller vers les structures égyptiennes, mais les Israéliens se refusent. Il y a une liste de 8000 blessés extrêmement graves, que ce soit des mulets, des brûlés, des traumatisés de l'abdomen, du thorax, etc., des enfants. Il y a une liste de 8000 personnes, mais les Israéliens s'opposent à l'évacuation et à la sortie de ces blessés. De ce fait, bien évidemment, vous voyez, on est dans une situation où il y a beaucoup de morts qui sont totalement illégitimes et que nous pourrions soigner, mais qui ne le peuvent pas, et qui ne le sont pas, et qui ne sont pas soignés. Donc, pour ce qui concerne la ville de Rafah, où je suis allé 6 fois, on se retrouve dans une ville de 240 000 habitants qui a maintenant 1 500 000 personnes, qui sont dans une situation de déshumanisation totale. Personne ne les attendait, pas de tente non plus, pas d'hébergement, pas de nourriture pour elles, pas non plus de soins sanitaires aussi, parce qu'ils ont aussi, évidemment, comme autour de l'hôpital, ils ont des besoins de santé primaire. Il y a les femmes enceintes aussi, il faut pouvoir les prendre en charge. Tout ça crée une situation humanitaire qui est dans une grande, qui est horrible, qui est dans une sorte de désespérance. Et cette population est totalement désœuvrée. Elle circule, il y a des milliers de personnes dans les rues qui circulent, qui vont, qui viennent, qui font la queue pour avoir de l'eau potable, la queue pour essayer d'avoir du pain, la queue pour trouver à manger, la queue pour éventuellement avoir des soins, la queue aussi pour pouvoir se laver, pour pouvoir se chauffer. Le plus souvent, ils vont dans les gravats pour aller chercher du bois, et c'est avec ce bois qu'ils vont essayer de faire du feu pour leur nourriture aussi et pour se chauffer. Mais c'est un bois qui est toxique parce que le plus souvent, il est fait de peinture, il y a de la peinture, il y a des vernis dessus, et donc il y a énormément de cas d'asthme qui se développent. C'est vraiment une situation, je l'ai dit à plus d'une fois, on est véritablement, dire seulement que c'est une prison à ciel ouvert ne suffit pas, on est dans un véritable ghetto, et ces gens, cette population, elle est bombardée jour et nuit, et il y a la présence des drones de surveillance, c'est-à-dire il y a des drones qui sont très très grands, qui font énormément de bruit, et qui sont présents au-dessus des têtes de tout le monde, jour et nuit, comme une espèce d'insecte qui est là, présent, ce qui rajoute en même temps, avec les bombardements, au stress que peut ressentir toute cette population. C'est véritablement quelque chose d'épouvantable qui se passe sous nos yeux. La communauté internationale peut se permettre de dire qu'elle regrette, qu'elle demande à Israël de faire en sorte de protéger cette population civile, mais en vérité, cela ne se fait pas. Les ONG internationales, toutes les plus grandes ONG internationales n'ont même pas le droit de rentrer à l'intérieur pour pouvoir assurer leur mission fondamentale qui est l'aide humanitaire. Et donc, nous avons créé un collectif, et c'est bien la première fois dans le monde que se crée un collectif de 50 ONG internationales qui fait un plaidoyer pour un cessez-le-feu immédiat. Et nous avons été reçus par l'Élysée, nous avons été reçus par les affaires étrangères, nous avons été reçus par le Sénat, nous avons été reçus par le Parlement. Il est nécessaire, il est très important de pouvoir obtenir un cessez-le-feu immédiat. Si véritablement les Israéliens ont l'intention, dans la situation que j'ai décrite de Rafah, d'attaquer Rafah, alors il faut véritablement considérer que c'est une ligne rouge. Il faut impérativement que tous les gouvernements occidentaux et même des pays arabes puissent considérer que toute attaque sur Rafah, dans la situation actuelle de cette population, dans les conditions actuelles de cette population, dans cette déshumanisation de cette population, là, il faut considérer que c'est une ligne rouge et qu'il faudrait pouvoir entendre, et en particulier de la France, parce que c'est notre pays, que le gouvernement français considère que toute attaque sur Rafah est une ligne rouge qui est dépassée et qui impose des sanctions immédiates. Parmi les sanctions immédiates, c'est bien évidemment le rappel de notre ambassadeur. C'est la limitation des voyages des responsables israéliens. C'est les sanctions économiques. C'est l'arrêt de tout armement envers Israël, du transfert envers Israël. C'est la remise en cause de l'accord avec l'Union européenne, l'accord d'association avec l'Union européenne. Et bien évidemment, il faut pouvoir dès à présent annoncer que nous serions en mesure de même d'isoler complètement Israël de la scène internationale et d'en faire un État paria qui n'est pas capable de respecter le droit humanitaire international. Ça suffit maintenant de dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Il faut passer maintenant au fait que nous devons annoncer des sanctions véritablement si nous voulons pouvoir obtenir quelque chose, du moins je l'espère, de cet État et en particulier de ce gouvernement fasciste. Merci beaucoup.
Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est ces 8000 personnes qui sont en attente de soins. En ce moment, tu m'entends?
J'entends un peu loin, parce que...
Alors, ces 8000 personnes qui sont en attente de soins, dans quel état critique sont-ils? Est-ce que c'est une question de mois, de jours?
Ah oui, on est véritablement dans une situation où le pronostic vital est engagé. Ce sont des patients extrêmement graves, les snipers tirent systématiquement dans le crâne et à l'hôpital européen, nous laissions mourir tous ces patients qui avaient ces plaies au niveau cérébral. Mais il y a des patients aussi qui présentent des traumatismes graves au niveau du thorax qui nécessitent de la ventilation. Oui, leur pronostic est totalement engagé. Avant la guerre, il y avait dans la bande de Gaza 3500 lits. Il ne reste plus d'opérationnel que 1000 lits actuellement pour plus de 60 000 blessés. 1000 lits pour plus de 60 000 blessés. Aujourd'hui, il faudrait environ 7 à 8 000 lits à l'intérieur de la poche de Gaza pour permettre la prise en charge et les soins de ces 60 000 personnes. Et j'ai dit qu'il y avait plus de 8 000 personnes qui devraient être évacuées parce que leur état nécessite des plateaux techniques très développés que malheureusement il n'y a pas au niveau de Gaza. Donc on est devant une situation sanitaire qui est épouvantable, qui est terrible, qui est condamnable sur bien des points puisqu'on ne peut absolument pas assurer la survie de ces patients.
Une question qui me vient, est-ce que dans tous les voyages que tu as fait, notamment je pense en Syrie, as-tu déjà vu des conditions pareilles?
Alors, il y a eu deux fois en Syrie, on s'est retrouvé à peu près dans des situations à peu près identiques. C'était le siège d'Alep ou le siège de la Ghouta. Pendant Alep, pendant 6 mois, les Russes, avec le régime de Bachar al-Assad, avaient assiégé la ville d'Alep. Et pendant 6 mois, ils avaient coupé l'eau, l'électricité, bien évidemment, et tout en fait de nourriture et des bombardements qui étaient quotidiens et constants. Les Alepins avaient été obligés de forer des puits dans la ville d'Alep pour avoir de l'eau. Ça a duré 6 mois, bien évidemment, mais à la différence, c'est que les Alepins avaient leur appartement, avaient leur maison et qu'ils pouvaient se réfugier dans les caves. Au niveau des hôpitaux, bien évidemment, c'était assez compliqué pour assurer la prise en charge des blessés, mais il y avait une possibilité, en tous les cas pour les Alepins, de ne pas se retrouver dans la rue comme se retrouvent aujourd'hui les Gazaouis qui sont à Rafah, qui vivent sur les trottoirs, qui vivent dans des abris de fortune, qui vivent là où il y a de la place, alors qu'à Alep ou bien dans la Ghouta, bien évidemment, les Alepins restaient dans leurs appartements ou vivaient dans les caves et donc ils pouvaient se protéger.
Et depuis que tu es rentré maintenant, as-tu eu des contacts encore avec les collègues, les infirmiers, les chirurgiens sur place qui sont, eux, partis et revenus et ceux qui sont en Gazaouis, qui sont restés sur place?
Oui, absolument, nous sommes en relation constante tous les jours. Et je dois dire, c'est ce qui aussi est assez éprouvant pour nous tous qui avons vécu avec eux pendant 2 semaines, qui nous sommes rentrés, donc on peut considérer que nous sommes maintenant très privilégiés, bien évidemment. Nous vivons dans un pays qui est en paix et qui nous donne, et dans lequel nous avons tout ce que nous avons besoin. Mais ce qui est en même temps difficile, c'est justement d'être en relation avec eux par téléphone, par WhatsApp, d'échanger des vidéos constamment. Et bien évidemment, nous sommes tous très engagés pour témoigner de ce que nous avons vu et pour essayer justement d'amener les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques à prendre des positions qui sont courageuses. Mais je ne peux pas dire que notre gouvernement, pour autant, qui est beaucoup dans la parole, mais il est peu dans l'action.
Alors, est-ce que... Par exemple, quand nous on voit, en tant que téléspectateurs sur toutes ces grandes chaînes, quand nous on voit sur toutes les grandes chaînes télévisées du largage alimentaire ou ces bateaux qui arrivent au bord de la mer poussés par deux petits bateaux, est-ce que c'est 1%, est-ce que c'est 0,01%, est-ce que c'est une com ou est-ce que ça reprend quelque chose de concret?
C'est une très grande hypocrisie. Bien évidemment, ça n'échappe à personne que c'est une hypocrisie. Il y a plus de 500 à 600 camions du côté de Rafah qui attendent de rentrer à l'intérieur. Chaque camion, ça représente en moyenne 40 tonnes de médicaments, de nourriture, de matériel, etc. Il y en a plus de 500. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit des largages de nourriture qui se font sur une population affamée pour se donner d'une certaine manière bonne conscience, alors qu'il serait tout simple d'ouvrir un ou deux corridors humanitaires pour les laisser rentrer ces centaines de camions qui ne demandent que ça. Et donc, on est encore devant le fait qu'il y ait de la nourriture qui descend sur les Gazaouis, du ciel, etc. Aussi peu que cela soit, c'est quand même quelque chose, mais quand même, il faut bien reconnaître que cette hypocrisie est insupportable. Il suffirait de bien peu, il suffirait simplement d'ouvrir, de forcer Israël à un cessez-le-feu immédiat et au même temps à laisser rentrer ses camions. Je dois rappeler que la résolution de l'ONU, la dernière qui a été votée, elle fait obligation à Israël, et ça depuis plus d'un mois, elle fait obligation à Israël de laisser rentrer, de laisser la bande de Gaza être approvisionnée massivement, dit la résolution. Et les Israéliens s'y opposent toujours, malgré tout. Avons-nous à accepter qu'Israël puisse s'asseoir sur la réglementation internationale, sur les règles internationales? Ce qui est en train de se passer est inédit. Ce pays n'accepte pas les règles du droit humanitaire international. Il est, je le dis encore une fois, c'est un État paria qui s'est mis en dehors des règles internationales. À ce titre, nous n'avons pas à devoir collaborer ou à maintenir des accords, avoir des relations diplomatiques avec un État qui se met en dehors des règles internationales. Il faut le considérer comme un État paria et donc l'isoler de la scène internationale. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre. Et éventuellement, décider de sanctions possibles en mettant un ultimatum, et cet ultimatum serait de ne pas attaquer Rafah dans la situation actuelle. Et il faut avoir le courage d'avoir un groupe des gouvernements qui osent le faire.
En tout cas, Raphaël, merci énormément. Merci énormément pour ta patience, pour toutes ces explications. On va te garder avec nous. On a d'autres interlocuteurs, interlocutrices qui vont prendre la parole là maintenant. Et on va revenir pour des questions-réponses, parce que je pense que tout le monde a des questions et c'est le moment de profiter de ce que tu as pu voir. Donc si tu peux rester encore avec nous, c'est génial. Et au moment des questions-réponses, je te rappelle un petit peu. Merci énormément, je pense qu'on peut l'applaudir fortement. Une dernière question, mais rapide. Est-ce que tu repars ou tu reviens? Tu vas repartir ou tu repars pas?
Alors, je repars normalement le 30 en Ukraine, là. Jusqu'au 7 avril, je suis en Ukraine. Et je partirai à Rafah vers la mi-avril pour commencer à mettre en place les centres de soins, puisque nous avons un objectif de déployer 10 centres de soins dans Rafah. Il y en a déjà 3 qui sont opérationnels. Et j'irai ensuite poursuivre justement cette ouverture de ces centres qui sont, et vous l'avez tous bien compris, je pense, qui sont extrêmement nécessaires pour cette population qui a vraiment des problèmes de soins primaires qu'il faut pouvoir prendre en charge, et ce qui permet en même temps de soulager les hôpitaux pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas dans les hôpitaux pour aller pour des problématiques qui sont de l'ordre de soins primaires aigus ou chroniques.
Je vous remercie pour l'honnêteté de vos propos et le bon courage que vous avez, qui nous réconcilie par rapport au comportement de la France. J'en suis désolée, j'en ai quelquefois bien honte. J'aurais voulu avoir votre opinion par rapport aux pays arabes. L'Égypte est peut-être en capacité de recevoir ces 8000 blessés dont vous nous parliez tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a des rétentions des autres pays arabes?
Oui, absolument. Je pense que l'Égypte pourrait participer, comme la Jordanie ou comme d'autres pays arabes, bien évidemment. La Turquie a pris des enfants quand c'est eux, mais cela existait déjà depuis bien avant le 7 octobre. L'hôpital El Nasser, aussi l'Égypte. Et la Turquie avait un hôpital qui était un hôpital pour les enfants cancéreux. Et donc, un certain nombre d'enfants qui sont à Gaza ont été transférés vers la Turquie. Donc, il y aurait une organisation possible. Je dois rappeler quand même que la France avait envoyé un bateau qui est le Dixmude, qui est resté 3 mois à quai et qui n'a soigné que 100 blessés qui avaient déjà été opérés auparavant et qui est reparti vide. Donc, on pourrait très bien imaginer que d'autres pays pourraient envoyer des hôpitaux, mettre en place des hôpitaux mobiles dans le Sinaï. La France a des hôpitaux, l'armée française a des hôpitaux qu'on pourrait déployer aussi bien dans le Sinaï pour pouvoir sortir ces blessés et les soigner sur place. Vous voyez, à l'extérieur de Gaza, plutôt que d'envoyer des bateaux, il aurait été beaucoup plus simple de déployer des hôpitaux mobiles comme la France sait le faire quand il y a une catastrophe humanitaire, une catastrophe naturelle un peu partout. Cela est tout à fait possible. Mais ça n'a pas été fait, ça n'a même pas été proposé et on a envoyé le Nixmude pour rien.
Simplement une question, depuis votre retour, quels sont les médias français, télévision ou radio, qui vous ont contacté pour témoigner?
Alors, France Info l'a fait, BFM TV l'a fait, il y a la France 5 l'a fait aussi. On ne peut pas dire que TF1 pas du tout. Il y a les médias écrits aussi. Je ne peux plus compter, il n'y a pas que moi, mais évidemment, il y a aussi des collègues qui ont été aussi interviewés. D'une certaine manière, nous avons eu le sentiment, en tous les cas, que les médias français recherchaient nos témoignages. Et puis, il n'y a pas eu de témoignage au niveau des médias. Trois jours après mon arrivée, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé si j'acceptais de débriefer avec eux. Et donc, ce que j'ai accepté, bien évidemment, et j'ai eu un débriefing au niveau du ministère des Affaires étrangères, au plus haut niveau, puisqu'il y avait des conseillers de l'Élysée qui étaient là présents. Et à la fin de ce débriefing, le conseiller de l'Élysée m'a demandé si j'avais un message à faire passer au plus haut. Alors, bien évidemment, je lui ai dit que la position française devait se singulariser par une position de défense du droit humanitaire international. Que notre pays se voulait être porteur des droits de l'homme, il se voulait en même temps porteur des droits humains, et que plutôt que d'avoir une parole belligérante, une parole violente, la France devrait au contraire se singulariser par cette position-là qui était la position humanitaire, parce que c'est ce que nous voulons défendre, nous Français. Et donc je lui ai dit que la première des choses était le cessez-le-feu immédiat, et que la France devrait proposer un cessez-le-feu immédiat et ne pas cesser de le répéter.
Alors, j'ai une question, je t'ai vite fait la main. Dans ce contexte qui ressemble beaucoup à un assassinat à vase close, mais à un assassinat à grande échelle, je me demande comment, étant donné l'absence de témoins autorisés sur place, qui ne sont pas autorisés à rentrer, si je vous entends bien, comment on peut espérer que des preuves soient réunies dans l'optique d'un éventuel, que j'espère, procès dans la Cour pénale internationale ou quelque chose comme ça.
Écoutez, je pense que les ONG qui sont dans la mission et les objectifs sont le droit humanitaire international comme Amnesty, investiguent de manière très très importante tout ce qui se passe à Gaza, de manière à étoffer le dossier et aussi envisager les poursuites. Et donc c'est vraiment ce qui est le travail de terrain que font ces ONG internationales, ces ONG qui défendent le droit humanitaire international. Et c'est vraiment un travail très important. Il apparaît très clairement que Israël s'est mis dans une position qu'elle aura du mal éventuellement à défendre. La défense après le massacre du 7 octobre, rien après le massacre du 7 octobre qui est condamnable, et je le dis encore très très violemment, ce massacre est condamnable, bien sûr, mais pour autant il ne peut pas justifier la mort d'une seule personne innocente. Or, la population palestinienne, et celle de Gaza en particulier, est une population innocente. S'il y a défense, effectivement, elle va se faire entre les forces du Hamas et Israël. Bien évidemment, il leur appartient de régler leurs comptes entre eux, mais la population doit être protégée. Un seul, et quand on vient me dire, oui, mais les chiffres de 30 000, vous savez, ce sont ceux du Hamas, c'est scandaleux qu'on ose dire ça. Il n'y en aurait même que 5, simplement, de Palestiniens civils qui soient tués par les bombardements, etc. Ces 5-là, c'est 5 de trop, parce que ce sont des innocents. Et donc, ça suffit de faire le calcul comme si le nombre, il y en aurait les 1200 Israéliens, il faudrait combien pour, quelque part, assouvir une justice? La vie d'un Israélien vaut la vie d'un Palestinien. Et un Palestinien et les Palestiniens, les Israéliens innocents, d'accord, n'auraient pas dû être tués, et les Palestiniens innocents, maintenant, n'ont pas à subir cette violence, leur enlever la nourriture, les déshumaniser. Il y a pire que de tuer un homme, et c'est de lui enlever sa dignité.
Oui. On te remercie vraiment énormément. J'ai trouvé ça, on va vous dire.
Plus que jamais, restons mobilisés, tous ensemble, pour faire bouger les lignes de notre gouvernement d'abord.
On espère toujours te voir, non pas en live, mais en chair et en os.
Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci encore.